rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Bienvenue au Rendez-vous Série, l'émission qui vous fait regretter de manquer de temps pour regarder toutes les bonnes séries qu'on vous a sélectionnées. Des séries pour réfléchir, s'émouvoir, palpiter, vibrer, des univers fascinants, parfois dérangeants, et même des séries qui bousculent les codes. Au programme de cette émission, des maladies mentales, avec Empathie, des mystères non résolus, des dossiers oubliés, et vous aimez l'action ? Alors, Mobland et NCIS Origins vous serviront leur dose d'adrénaline entre crime organisé et enquête fédérale. Pour les amateurs de frissons, préparez-vous à trembler avec It Welcome to Jerry, spin-off glaçant du célèbre clown maléfique, et à savourer l'horreur stylisée d'American Horror Story et le surnaturel s'invitant dans les profondeurs avec Sirens. On pourra aussi se captiver pour une dystopie assez terrifiante où chaque jeu peut être le dernier avec Alice in Borderland. Toutes ces séries vont vous être recommandées chaudement par cinq voix féminines, nos chroniqueuses Amy, Julie, Nathalie, Aurore et moi-même, pour vous guider avec esprit critique et passion sur ces œuvres qui interrogent notre époque, nos peurs, nos mémoires et nos imaginaires. Et nous commençons avec Amy pour la série Sirens.
Hey, 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 chères auditrices et auditeurs, comme pourrait le prononcer l'héroïne principale de la série. Préparez-vous un week-end qui s'annonce aussi chic que chaotique. Inspiré par la pièce de théâtre « Elementopéa » en 2011 de Molly Smith Messler, créatrice également de la série, cette nouvelle production vous plonge dans les histoires d'une famille où l'argent coule à flot, mais aussi l'ambiance des repas familiaux. Oubliez la carte postale, sur ce domaine balnéaire digne des plus grandes demeures de magazines, tout n'est qu'apparence. Derrière les sourires forcés, les coupes de champagne, ça sent le secret de Polichinelle, le regard assassin et les crises d'adolescence qui n'en finissent plus. L'histoire suit Devon David, interprétée par Megan Fahey, une femme ordinaire et déterminée qui se rend sur une île isolée pour sauver sa jeune sœur Simone. Interprétée par Millie Alcock, alors cette dernière est devenue l'assistante personnelle dévouée de Kiki Keller, jouée par Julianne Moore, une milliardaire excentrique, philanthrope et activiste pour la protection des oiseaux de proie, mariée à l'énigmatique Peter Kell, alias Kevin Bacon. Ce qui commence comme une simple visite de sœur protectrice se transforme en un tourbillon de mystères, de manipulations et de révélations sur les privilèges de l'élite, où les liens familiaux et les jeux de pouvoir se heurtent violemment à la réalité du traumatisme passé. Quand la sirène retentit dans Sirens, c'est pas pour un incendie, c'est pour un drama familial traité avec un humour si noir qu'il en devient presque lumineux. Julianne Moore en sirène, détrompez-vous, ici, quand Julianne Moore chante, les poissons portent des loups-boutins. C'est là que dans Sirens, justement cette série qui joue habilement sur le titre pour évoquer les sirènes mythologiques grecques, donc des créatures hybrides femmes-oiseaux qui attirent les marins à la mort pour leur chant, par leur chant pourtant, mais sans aucun doute créature marine littérale. C'est une dark comédie réaliste sur les dynamiques de pouvoir entre femmes, centrée sur la classe sociale et l'ambition toxique. Contrairement à la plupart des sirènes qu'on peut voir dans d'autres séries, qui sont des fantaisies young adultes avec des êtres surnaturels, ici, c'est une satire plutôt psychologique, ancrée dans le monde réel, avec des épisodes d'une intensité savamment calculée, où l'on décortique la richesse, le pouvoir et surtout les dynamiques familiales dysfonctionnelles. Donc Sirens se distingue aussi par son absence totale de fantastique. C'est une relecture mythologique de l'intérieur, donc c'est-à-dire du point de vue des sirènes comme femmes piégées par le pouvoir, alors que les autres séries misent plutôt sur des sirènes littérales pour du divertissement magique ou horrifique. Ici, au lieu de sirènes vues par les marins comme dans l'Odyssée, on voit les femmes comme prédateurs, victimes dans un monde élitiste. Alors, Sirens, c'est milliardaire en crise, mouette en thérapie. Ou pourrait-on dire un cocktail irrésistible de mystère, d'humour acide et d'émotions brutes, porté par une Julianne Moore au sommet de son art. Disponible sur Netflix, donc là en ce moment en 2025, elle mérite amplement ses éloges et appelle déjà une saison 2. Les sirènes de Sirens chantent faux, mais on reste quand même scotché.
Alors pour vous donner une idée de l'ambiance, on va écouter un extrait de la bande originale.
Thank you.
Alors, je vais enchaîner avec une série anglaise, une série jubilatoire diffusée sur Paramount et Canal+, signée Guy Ritchie et Ronan Bennett. C'est Moblonde. Et je vais vous passer tout de suite un extrait de la bande originale. Moblonde nous emmène à Londres auprès d'une famille mafieuse, les Harrigan, menée par un Pierce Brosnan impérial qui s'amuse ostensiblement à jouer le patriarche revêche et explosif. À ses côtés, sa femme, campée par Helen Mirren, complètement déjantée, manipulatrice, versatile et odieuse à souhait. Elle est capable de transformer une réunion de famille en véritable carnage. On va suivre tout particulièrement leur homme de main, Harry de Souza, incarné par l'excellent et charismatique Tom Hardy. Parfait, en caïd bourru, prêt à tout pour protéger le clan, qui tente d'éviter une guerre des gangs tout en essayant de sauver son mariage. Et il se sort brillamment de situations inextricables, c'est particulièrement savoureux pour le spectateur. Et dans cet univers de gangsters et de crimes organisés, tout peut basculer à la moindre erreur. Ainsi, lorsque le petit-fils commet une grosse bêtise, tout part en vrille pour le clan. Et quand une famille puissante voit son empire menacé, forcément, sa réplique au centuple, ça frappe, ça bastonne. Et entre disparition, trahison, magouille et stratégie machiavélique, la tension monte. Et ça donne 10 épisodes haletants, bourrés d'action, de suspense et d'humour noir. Les personnages sont fouillés, mystérieux. On retrouve l'ambiance sombre et stylée, chère à Guy Ritchie, son grain de folie, avec des scènes d'action spectaculaires et une bande-son incroyable. Une atmosphère pas si éloignée de celle de sa précédente série, Gentlemen, mais qui au départ devait être le spin-off de la série Ray Donovan, qui mettait en scène un homme de main chargé de gérer les problèmes de famille de pouvoir. Le projet a périclité, mais le scénario réécrit pour en faire cette série Moblonde. Et Moblonde, c'est efficace, tonique, totalement addictif. À chaque épisode, on en redemande. Elle devrait se poursuivre avec une deuxième saison, avec, on l'espère, le même casting aussi parfait. Si vous aimez les thrillers mafieux à la sauce british, foncez. On va changer de registre maintenant avec American Horror Story et on va écouter le générique.
Thank you. Il y a des tueurs à tête de cochon. Spoiler.
Alors, donc je vais vous présenter American Horror Story, donc, qui est une série disponible sur Disney Plus et Canal. C'est une série un peu ancienne maintenant, puisqu'elle a commencé en 2011, qui est l'œuvre de Ryan Murphy et de Brad Falchuk, qui sont devenus du coup les rois de l'horreur américaine. Difficile de vous donner un aperçu général de toute la série, puisqu'on en est à 12 saisons à l'heure actuelle et que la 13e, Hosanna, est enfin annoncée pour 2026. Ça fait 2 ans qu'on l'attendait, cette saison. American Horror Story, c'est avant tout une série d'anthologie où chaque saison raconte une histoire différente, à chaque fois sur une dizaine d'épisodes. Chaque saison peut se regarder absolument indépendamment des autres, mais ce que je conseillerais quand même, c'est d'essayer de prendre au moins les choses dans l'ordre, parce que certains arcs narratifs se retrouvent d'une saison à une autre. On connecte notamment la saison 1 à la saison 8, la saison 2 et la deuxième partie de la saison 10. Voilà, donc si vous en manquez une partie, vous risquez de manquer une partie de l'histoire, mais après, ça n'a pas grande importance. American Horror Story, c'est avant tout un jeu sur les grands mythes de l'horreur américaine, sur toutes les théories du complot qu'on peut retrouver depuis les années 60 jusqu'à nos jours. Et on en a pour tous les goûts des fans de l'horreur. On a de la maison hantée, de la sorcière, de la colonie perdue, des hommes à tête, tueurs à tête de cochon, des extraterrestres, des vampires sous plusieurs formes, que ce soit les vampires de l'âme ou les réels vampires, de l'apocalypse, mais également, beaucoup plus récemment, des thèmes très ancrés dans l'histoire contemporaine. Je pense notamment à la saison 11, New York, qui parle de l'apparition du VIH aux États-Unis, traité de manière un petit peu fantastique, mais bien ancrée dans les théories du complot qui avaient lieu dans les années 80. Ou à la saison 7, qui, bizarrement, au moment de la montée au pouvoir de Donald Trump, nous parle de la montée de l'extrême droite et de l'extrême droite aux États-Unis, du culte de la personnalité chez un homme politique de petite ampleur au niveau de sa ville. American Horror Story, c'est aussi un des acteurs superbes, un casting qui se retrouve souvent d'une saison à une autre et donc avec une très large variété de rôles. Un casting qui donne une large part aux acteurs connus et reconnus. Je pense notamment à, merci, Sainte Kathy Bates, que les amateurs d'horreur connaîtront pour sa merveilleuse interprétation de l'héroïne, enfin si on peut appeler ça une héroïne, de Misery, l'adaptation du roman de Stephen King, ou Jessica Lange, oscarisée de nombreuses fois, actrice des années 60 jusqu'à nos jours, et aussi un bon lot d'acteurs émergents, alors certains qui sont actuellement connus, Sarah Paulson, qu'on a trouvé notamment dans Ratched, Evan Peters, ou plus récemment, dans la saison 12, Kim Kardashian. Oui. Ryan Murphy, le premier à avoir fait jouer Kim Kardashian, et j'avoue, elle joue très bien dans la saison 12. Chacun peut avoir sa propre opinion sur chaque saison. Vous trouverez des fans de partout. Certains sont fans de la saison 5 autour de l'Hôtel Cortez et de Lady Gaga en vampire puissante et démoniaque. D'autres seront fans de la saison 8, Apocalypse, qui nous présente des sorcières luttant contre l'Antéchrist. Moi, personnellement, mes gros coups de cœur vont à la saison 1, la toute première, la Murder House, qui pose les bases de l'histoire. Donc on suit un couple et leur fille adolescente qui vont déménager à Los Angeles suite à une crise. Donc madame a perdu un enfant, monsieur, pour s'en remettre, s'est consolé dans les bras de son étudiante. Et madame les a surpris au lit et a entaillé le bras de monsieur avant de partir soigner son couple à Los Angeles, où ils s'installent dans une maison qu'ils ont à très bas prix, maison tristement célèbre pour avoir abrité dans les années 20 un chirurgien rendu fou par la perte de son propre enfant. Oui, ça vous pose les bases. Et donc dans cette saison, le couple et leur fille vont devoir affronter de manière extrêmement littérale les fantômes du passé, donc les leurs, hein, puisqu'ils vont reconstruire leur histoire à partir du postulat de départ, et surtout, très littéralement, les fantômes de la maison, puisque dans cette maison, si vous y mourrez, vous ne pourrez jamais vous en sortir. Voilà. Et l'autre de mes favorites, c'est la saison 7, Roanoke. Donc pour tous les amateurs d'émissions paranormales en tout genre, Ghost Adventures, RIP, etc. Regardez la saison 7, donc, qui reprend une forme très connue, où on mêle interview de personnages réels et reconstitution en fiction. L'histoire de nouveau d'un jeune couple, toujours pareil, qui déménage de Los Angeles. Voilà. Il y a de nouveau la perte d'un enfant. Il y a peut-être un thème récurrent dans l'œuvre de Ryan Murphy autour de la perte d'un enfant. Il déménage donc au fin fond de la Caroline, il me semble. Donc au fin fond de la campagne, dans une maison très éloignée de tout, sur une terre ayant abrité des centaines d'années plus tôt la fameuse colonie perdue de Roanoke. Donc en fait, c'était un des premiers groupes de pèlerins anglais venus s'installer aux États-Unis qui a disparu mystérieusement du jour au lendemain de leur terre de colonie. Et on ne sait jamais ce qui est arrivé et il paraît qu'ils reviennent très régulièrement hanter la terre de Roanoke. Donc vous l'avez compris, moi, American Horror Story, en grande fan d'horreur, c'est ma série chouchou. C'est une série à regarder, à re-regarder. Parce que déjà c'est très bien, mais surtout parce que chaque visionnage va vous apporter son nouveau lot de détails auxquels vous n'aurez pas fait attention auparavant. Et surtout, en reprenant les saisons, vous allez avoir des associations d'idées avec d'autres saisons auxquelles vous n'aurez jamais pensé.
On retrouve pas du tout les mêmes personnages, les mêmes acteurs d'une série, d'une saison
à l'autre. Alors, on retrouve les mêmes acteurs, mais qui jouent des personnages différents.
Ah, d'accord.
Donc voilà, donc tu peux pas avoir... Tu ne peux pas savoir à l'avance si les personnages vont être liés, mais tu t'aperçois que généralement, s'ils ont repris les mêmes acteurs, c'est qu'il y a un lien, même très ténu. Voilà, donc je pense notamment à Evan Peters qui va jouer son père, son grand-père, son petit-fils, voilà, à différentes époques.
D'accord, et ben, ça donne envie. Et maintenant, on va se pencher sur les dossiers oubliés. Écoutons une partie de la musique de la bande originale.
Dans les dossiers oubliés, série britannique disponible sur Netflix, tout commence dans un sous-sol. Pas un de ces lieux de polar éclairé au néon, mais un vrai ventre de béton humide, saturé de dossiers en carton. C'est là, au fin fond d'un commissariat d'Édimbourg, qu'atterrit le détective Karl Mork, joué par Matthew Good, flic brillant mais brisé par une bavure. On lui confie une mission sans prestige, rouvrir les affaires classées, ces enquêtes oubliées dont plus personne ne veut entendre parler. Cette mise au placard est bien sûr le point de départ d'une renaissance contrariée. Mork, enfermé dans sa culpabilité, doit apprendre à travailler avec une équipe hétéroclite. Assad, un ancien policier syrien qui cache ses blessures derrière une bienveillance silencieuse. Rose, une jeune recrue hypersensible. Le tout crée un cœur de personnages marqués dont les blessures personnelles deviennent partie intégrante de l'intrigue. Je vais rester très évasive sur l'histoire, car elle est difficile à évoquer sans spoiler. Je peux seulement vous dire qu'elle est très marquante, autant dans son horreur que dans son côté rédempteur. Les protagonistes rouvrent un dossier d'une disparition d'une jeune femme qui s'appelle Merit, qu'on a cessé de chercher depuis longtemps. Et c'est là que la série trouve sa force, dans sa manière de raconter. Les scénaristes choisissent une narration à double fond, tissé de flashbacks. Ces retours dans le passé ne sont jamais gratuits. Ils ne viennent pas simplement montrer ce qui s'est passé. Ils dialoguent avec le présent. Chaque scène d'hier éclaire un geste d'aujourd'hui. Chaque souvenir oublié rejaillit comme un écho. C'est une mécanique subtile. Plus les enquêteurs approchent de la vérité, plus les images du passé deviennent précises, presque envahissantes. On a parfois l'impression que ce sont les morts eux-mêmes qui viennent prendre la parole. Et donc c'est là que la série se distingue des polars classiques. Ici, la vérité ne se déduit pas par l'enquête, elle remonte. L'histoire se dévoile comme une mémoire traumatique qu'on force à parler. Les dossiers oubliés s'inspirent de la saga littéraire du Danois Adler Olsen. Donc la série s'appelle Les enquêtes du département V. Mais la transposition opère un changement. On passe de la Scandinavie au Royaume-Uni, de Copenhague à Édimbourg. Visuellement, l'œuvre frappe par sa cohérence. L'Écosse y est plus qu'un décor. C'est un personnage à part entière. La pluie colle aux vitres, les falaises s'effritent, les ruelles pavées étouffent. Le réalisateur filme la ville comme un organisme fatigué qui est hanté par les meurtres qui ont eu lieu. L'ambiance rappelle parfois Broadchurch, mais avec une gravité supplémentaire encore. Ici, tout semble peser un peu plus. C'est aussi une série sur la mémoire, celle des morts bien sûr, mais aussi celle des vivants. Chaque épisode rappelle que ce qu'on tente d'oublier finit toujours par remonter à la surface, que ce soit une enquête classée, une faute enfouie ou un traumatisme mal digéré. Dès les premiers épisodes, la série impose un rythme mesuré, presque hypnotique. On n'a pas de poursuite haletante, on n'a pas de dialogue survolté. Les dossiers oubliés préfèrent la lenteur, la précision, la mise en place. Chaque détail compte, un silence trop long, une trace dans un dossier, une hésitation dans un témoignage. C'est une série qui se regarde comme on fouille un grenier, avec patience et curiosité. La série fait donc confiance au spectateur. Elle n'explique pas tout, elle ne cherche pas à plaire. Elle laisse des silences respirer, les personnages évoluer lentement, les intrigues s'enchevêtrer. Le résultat, c'est une œuvre exigeante, mais profondément satisfaisante pour qui aime les récits denses, à la fois intimes et criminels. Alors, je vais maintenant donner la parole à Amy qui va vous parler d'Alice in Borderland, mais avant, on va écouter un extrait du générique.
Cherchez une série qui vous tiendra en haleine et que vous aimez comme moi Alice au Pays des Merveilles, il faut absolument que vous jetiez un œil à Alice in Borderland. C'est une série japonaise de science-fiction et un thriller de survie créé par Shinzuke Sato et adopté du manga éponyme de Haros Aso, publié de 2010 à 2016. Elle reproduit assez fidèlement le manga pour ce qui est des saisons 1 et 2, en sachant que la fin de la saison 2 est la même que la fin du manga. Diffusée sur Netflix, elle a connu un succès mondial fulgurant avec plus de 200 millions d'heures de visionnage pour la saison 2 à elle seule, se classant dans le top 10 de 90 pays. À la date d'aujourd'hui, la série compte 3 saisons, dont la troisième saison est sortie le 25 septembre dernier. Alors attention, âme sensible, s'abstenir. Imaginez un Tokyo vidé de toute âme qui vive, un peu comme un lundi matin sans café, mais en version post-apocalyptique, dans lequel un groupe de survivants, mené par Arisu, interprété par Kento Yamazaki, un jeune geek sans ambition, qui doit participer à des jeux mortels pour obtenir des visas temporaires de survie. Un loto infernal où chaque jeu, noté par une carte à jouer, de 1 à 10, donc avec pique, cœur, carreau, trèfle, teste tout. Votre cerveau fumant, vos muscles endoloris, ou même votre boussole morale, avec comme pot de consolation le droit de vivre un petit peu plus longtemps. C'est un univers où chaque carte, chaque sourire est potentiellement le dernier. La survie, me direz-vous. Une partie de poker menteur avec la faucheuse, où les alliances sont aussi solides que du verre mouillé. Donc vous aurez compris le jeu de mots entre verre et le miroir. Donc Alice in Borderland transcende le genre survival pour une allégorie philosophique et s'inspire, entre autres, d'Alice au Pays des Merveilles, de Lewis Carroll, bien sûr. Alors on se retrouve transporté avec la même recette de base, mais avec des goûts radicalement différents. La première Alice, celle de Lewis Carroll, se perd dans un rêve de thé, deux cartes qui jouent au croquet, où l'absurdité est soignée, un peu comme une logique tordue, mais surtout innocente. Une reine colérique, un limpa blanc qui court partout, pas de quoi s'affoler, il y a peut-être des scones à la clé. Dans Borderland, par contre, Arisu, gamer désœuvré, aspiré donc dans ce Tokyo vide où les jeux de cartes sont mortels, là, le lapin, il devient un maître piégé, le chapelier, un leader psychopathe, le chat du Cheshire, un manipulateur froid. Et là, le ton bascule, l'absurde devient cruel, la fantaisie, gore, la croissance personnelle, traumatique. Carroll explore, l'enfance, un peu la logique effectivement tordue, assaut, dissèque, le sens de la vie quand la mort est le seul visa. Alice in Borderland, c'est plutôt une expérience philosophique donc, qui est déguisée en death game, donc en jeu mortel. Arisu, donc l'homme absurde, un peu dans l'idée du philosophe justement, qui passe d'une vie vide à une révolte existentielle, un petit peu donc ce qui est exploré par Albert Camus. Chaque jeu mortel devient un choix de sens. Les cartes à jouer incarnent quatre dilemmes éthiques. Donc on a l'altruisme avec le cœur, la trahison avec le pique, la logique avec le carreau et la force avec le trèfle, opposant le philosophe Kant avec l'idée de devoir et Machiavel avec l'idée de résultat. Donc là, Borderlands, c'est plutôt un état de nature à la Hobbes. Donc sans loi, l'humanité se révèle guerre ou alliance, fragile. Et c'est là où la saison 3, qui a fait d'ailleurs beaucoup polémique, parce que on s'est demandé voilà, si c'était effectivement nécessaire de faire une troisième saison par rapport au manga. Ça ajoute une couche plutôt donc, bouddhiste, si je pourrais dire, dans le sens où le monde est illusion, donc c'est ce qu'on appelle le Maya. Et enfin, Nietzsche plane. Ce qui ne tue pas rend plus fort, oui, mais à quel prix? Et en une phrase, la survie n'est pas physique, c'est choisir qui on devient quand tout est perdu.
D'accord, très métaphysique et philosophique. Alors on va de nouveau vers l'horreur avec It Welcome to Jerry. Écoutons le générique.
A smile is something special. A ribbon is something rare, so I'll be special and I'll be rare with a smile and a ribbon in my hair. To be a girl, they notice, takes more than a fancy dress, so I'll be noticed because I'll dress with a smile and a ribbon in my tresses. The bigger my toothy grin is, the smaller my troubles grow. The louder I say I'm happy, the more I believe it's so. So I'll have that extra something, 'cause I'll know what to wear. So I'll be special and I'll be rare. I'll be something beyond compare. I'll be noticed because I'll wear a smile and a ribbon in my hair. The bigger my toothy grin is, the smaller my troubles grow. The louder I say I'm happy, the more I believe it's so. So I'll have that extra something, 'cause I'll know what to wear. So I'll be special and I'll be rare. I'll be something beyond compare. I'll be noticed because I'll wear a smile and a ribbon in my hair.
Alors, c'était un générique très joyeux, très guiré, mais ne faites bien attention, vous n'êtes pas avec dans Derry et avec... Alors, It, Welcome to Derry, effectivement, si on le prononce en anglais. Ou alors, ça, Bienvenue à Derry. Oui, je vous préviens, je vais dire beaucoup ça. Je vais dire beaucoup ça. Ça, voilà. C'est comme ça que ça s'appelle. Voilà. chronique très répétitive. Donc, vous n'êtes pas à Derry dans un monde bien propre et bien gentil, comme voudrait vous le faire croire le générique. Au contraire, dans cette série qui est toute récente, puisque le premier épisode a été diffusé fin octobre 2025 sur HBO Max, disponible en France sur Canal+, vous êtes plutôt dans le mal dès le départ. C'est-à-dire que dès le départ, ça part mal. Un enfant est tué par un espèce de gros monstre chauve-souris, bébé hideux, qui sort du ventre d'une femme. Je spoil pas, hein, c'est les 10 premières minutes. Hein, qui sort du ventre d'une dame enceinte qui a pris l'enfant en autostop. Voilà, dans sa voiture avec son mari et ses enfants maléfiques. Donc ça pose bien le contexte. On est donc ici dans cette série de Jason Fuchs, Andrés et Barbara Muschietti dans le Derry des années 1960. On va suivre deux jeunes filles, Lily Bainbridge et Veronica, dite Ronnie Grogan, adolescentes confrontées donc à la mort horrible de leur amie. Enfin, de leurs amis plutôt, qui essayaient de retrouver le premier garçon disparu. Donc le premier garçon a disparu. Un an plus tard, un groupe d'enfants essayait de le retrouver et de nouveau, ils meurent dans d'atroces circonstances. Donc dans leur quête de la vérité, Veronica et Lily vont être confrontées à des apparitions toutes plus étranges les unes que les autres, qu'ils semblent être les seuls à pouvoir voir dans la ville. Parallèlement, sur la base militaire installée à Derry, oui, parce qu'à Derry, en plein milieu du Maine, il y a une base militaire, hein. Ça ne mange pas de pain. On va suivre plusieurs personnages, dont notamment Leroy Hanlon et Dick Halloran, qui sont engagés pour aider à trouver une arme qui doit permettre aux États-Unis de contrer la plus grande offensive russe dans le contexte de la guerre froide. Voilà donc le pitch de base. Alors, difficile de se prononcer pour l'instant sur le scénario, hein, puisque 3 épisodes ont été diffusés sur les 8 de la première saison. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'on est plongé dans le monde des films ça, It, 1 et 2, les plus récents. Hein. Je parle ici de ceux de 2017 et 2019, pas de l'adaptation des années 80, qui à mon sens était bien meilleure, mais bon, passons. Donc, puisqu'on est bien à Derry, mais avant les premières aventures du Club des Ratés des années 1980. On voit d'ailleurs apparaître au fil des épisodes des personnages qui auront un lien plus ou moins clair avec les enfants du film. Donc vous m'avez entendu parler de Leroy Hanlon, donc qui est le père, le grand-père, on pense, du petit Mike Hanlon qui sera dans les films ça. Ou alors on croise la famille Uris, donc la famille de Stanley Uris qui aura aussi une grande importance dans les films. On va également avoir des références à d'autres parties de l'univers de Stephen King. Donc Stephen King qui est l'auteur de ça, le livre, publié en 1986. Comme par exemple, je vous en ai parlé, Dick Halloran, qui jouera un rôle prépondérant dans Shining. Ce que je peux vous en dire, donc, c'est que la réalisation, pour moi, est très bonne. On restitue tout à fait l'Amérique vue par Stephen King. Dans ses livres, donc une ville très proprette, vous l'avez entendu dans le générique, on est gentil, on est joyeux, c'est les années 60, c'est joli, c'est bien léché, c'est des couleurs très vives, etc. Mais derrière, chaque habitant peut cacher des secrets, les secrets les plus sordides. Donc on voit notamment, lorsqu'une famille noire américaine s'installe dans une banlieue blanche, les regards de méfiance au bas mot, que leur adressent leurs voisins, ou alors des parents qui, face à leurs enfants plongés dans la détresse de la perte d'un ami cher, s'en fichent royalement et ne semblent pas comprendre que quelque chose s'attaque aux enfants, hein, puisqu'on a aussi des scènes dans un commissariat où un mur entier est rempli de petites affichettes indiquant des enfants perdus. Au fil des années, et visiblement, aucun policier n'a idée de se dire que peut-être il y aurait un psychopathe caché quelque part. Voilà, donc on est bien dans le monde de ça, où les enfants subissent de plein fouet l'action de Pennywise en anglais, Gripsou en français, sans pouvoir se référer aux adultes qui, eux, y sont complètement aveugles. Là où je mettrais un petit bémol par rapport à cette série, c'est, même pour moi qui suis une grande fan d'horreur, j'ai été relativement dérangée par la surenchère, au moins dans les deux premiers épisodes, de graphisme autour des monstres et des scènes d'horreur. Alors, je sais, c'est très à la mode hein, depuis les trois Terrifier de faire du gore. Mais au bout d'un moment, je trouve que trop de gore tue le gore. Et notamment pour moi, la caractéristique de ça, c'est de jouer plutôt sur les peurs qu'on a enfouies au fond de nous et notamment nos peurs d'enfance, de créer un climat de paranoïa constant mais subtil. Et du coup, j'ai un petit peu peur là qu'au fur et à mesure de la série, on aille de plus en plus vers une sorte de grand guignol, parce que c'est ce qui fait recette en ce moment. Hein. Beaucoup de sang, des effusions, des meurtres de plus en plus horribles. Voilà, donc je suis un peu partagée, mais en tout cas, en ce moment, ça, c'est la série qui me fait attendre le lundi soir avec impatience, en frappant des mains. Alors par contre, trigger warning, hein, je vous préviens, ne regardez pas ça en mangeant. Vraiment. Vraiment. Vous le regardez avant le repas. Pas au milieu ou après, parce que c'est très compliqué.
On va écouter maintenant la bande-annonce d'une série d'un tout autre genre, hein. Empathie.
Ça va faire du bien une nouvelle psychiatre.
Ah ouais, pourquoi?
Parce que l'LD, c'est un peu l'unité fourre-tout.
Ah ben, un endroit comme ça, c'est un peu la poubelle de la société, non?
C'est des cas psychiatriques souvent désespérés.
Ça me ressemble, moi aussi je suis un cas désespéré.
C'est moi qui vais vous accompagner dans vos déplacements.
Mais je peux très bien me déplacer toute seule.
Non.
Je vous souhaite une bonne journée.
Pas moi!
Moi j'ai pas beaucoup d'amis. En fait j'en ai pas du tout.
T'as à moi maintenant?
Vous êtes heureuse de travailler ici?
J'aime bien les gens qui assument le silence.
Ben ferme ta gueule d'abord.
Empathie, c'est une série canadienne qui m'a profondément touchée. 10 épisodes d'environ 40 minutes pour une plongée rare et authentique dans le monde psychiatrique à Montréal, à l'Institut Mont-Royal. On y suit Suzanne, une jeune psychiatre, ancienne criminologue, marquée par un drame personnel. Affectée dans l'LD, en charge de patients déclarés pénalement irresponsables, elle découvre vite qu'ici, l'isolement n'est pas une option. Pour sa sécurité, mais surtout pour sa survie émotionnelle, elle doit compter sur Mortimer, un infirmier et agent d'intervention, incarné par un Thomas Njijol, je ne sais jamais trop comment le dire, Njijol, bouleversant de justesse. Ce binôme improbable est le fil conducteur de la série, qui nous plonge dans un univers où chaque petite victoire avec un patient apporte une joie infinie. Quand l'héroïne, elle-même lutte aussi contre ses propres démons, une tristesse qui prend tout son sens dès le deuxième épisode. Ce qui frappe, c'est la sincérité du propos. Florence Lompré, créatrice et interprète de Suzanne, s'est nourrie de 3 ans d'échanges avec des soignants et patients et de sa propre expérience d'aide-soignante et de la dépression qu'elle a fait quand elle était jeune. Résultat, c'est une œuvre d'une justesse rare qui évite le pathos facile et favorise la pudeur à la surenchère. La série met en lumière la force des rencontres, l'importance du soin psychique et la réalité de la détresse humaine. On y croise des personnages d'une incroyable épaisseur, portés par une distribution magistrale, et mention spéciale à Brigitte Lafleur et à l'acteur incarnant Monsieur Dallaire. Empathie, c'est aussi une bande-son qui accompagne chaque émotion, une mise en scène sensible, des dialogues ciselés, une grande délicatesse. On rit, on pleure, on s'attache, on sort de la bouleversée, mais ébloui. Peut-être que la série a tendance à idéaliser le métier de psychiatre, mais elle ose surtout montrer, avec finesse et vérité, ce qu'on cache trop souvent, la fragilité, la détresse et surtout la beauté des liens humains. En résumé, Empathie apporte une prise de conscience sur la santé mentale. Elle est en même temps un éloge de l'amitié et de l'empathie. Une série exceptionnelle, à voir absolument. Juste peut-être une dernière remarque, n'hésitez pas à mettre les sous-titres, car l'accent canadien est prononcé, et surtout les expressions québécoises difficiles à comprendre. Et on va finir notre émission avec NCIS Origins grâce à Aurore.
Et oui, il me semble que tout le monde connaît ce générique par cœur. Oui, après... après 23 saisons. La 23e est actuellement en cours, hein, de NCIS Enquête Spéciale. Eh bien, voici le spin-off, un préquel même, je dirais, qui s'appelle NCIS Origins. Alors, il y a eu, on connaît les autres spin-offs, NCIS Los Angeles, Hawaii, New Orleans, Sydney. Donc non, ce n'est pas un autre spin-off, c'est vraiment une série qui donne un souffle neuf à cette franchise qui nous berce depuis plus de 20 ans, qu'on peut voir sur Prime Video. Alors pourquoi moi j'ai bien aimé, même beaucoup aimé, ces premiers épisodes de NCIS Origins ? Eh bien d'abord parce qu'on y retrouve notre incontournable héros de la série originale, j'ai nommé Leroy Jethro Gibbs, mais à une époque où il n'était pas encore le vétéran taciturne que l'on connaît. Puisque la série nous ramène en 1991, exactement quand Gibbs débute sa carrière à la toute jeune agence, alors appelée NIS, Naval Investigative Service, le futur NCIS, où on rajoutera le criminal dedans. Ce passage du NIS au NCIS est loin d'être un détail anecdotique puisqu'on est dans un cadre historique, l'agence n'en est qu'à ses balbutiements, ce qui donne à la série un côté aussi fondation, très plaisant. Ce préquel est ce qu'on appelle un crossover par rapport à la série originale. On connaît Gibbs dans NCIS Enquête Spéciale comme le chef d'équipe solide avec ses fameuses règles et qui les applique à la lettre d'ailleurs. Parmi nos chroniqueuses de la journée, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait nous citer une des règles de Gibbs ? Ou pas, hein, c'est pas une question piège. Non ?
Il y en a tellement que...
C'est vrai qu'il y en a beaucoup, puisqu'il y en a près d'une cinquantaine. Alors, on va en découvrir l'origine, au moins pour certaines, dans ce préquel. Moi, je vous citerai que ma préférée, c'est la règle 39. Les coïncidences n'existent pas. J'aime bien le dire en anglais, parce que quand il le dit, j'aime beaucoup comment dit l'acteur. There's no such thing as a coincidence. Donc voilà, il n'y a pas de coïncidence, il y a toujours une raison derrière. Voilà, donc c'est ma préférée. Mais ici, dans Origins, eh bien, on assiste à la jeunesse de tout ce qu'on connaît d'un certain œil, en tout cas, les premiers pas de Gibbs en tant qu'agent. On voit aussi son mentor Mike Franks, qui est incarné avec brio et qu'on connaissait déjà dans la série mère, mais du coup, là, c'est un acteur plus jeune, évidemment. Mieux encore, il y a des croisements qui sont déjà prévus entre les deux séries. Par exemple, un événement narratif traverse les décennies et relie une enquête du NIS de 1991 à l'équipe du NCIS d'aujourd'hui. C'est le genre de clin d'œil que les fans adorent, évidemment. Alors, qu'est-ce qui rend Origins particulièrement attrayant ? Eh bien, le fait de voir Gibbs plus jeune, vulnérable, en pleine construction de sa légende, je trouve que ça ajoute beaucoup de profondeur à celui qu'on connaît déjà. Ensuite, on découvre l'ambiance du début des années 90, le monde militaire, la Navy, les marines, l'agence encore imparfaite, ça donne une atmosphère brute que j'aime beaucoup. On retrouve aussi et on repense des détails vus dans la série mère sous un autre angle. Par exemple, un trait de caractère de Gibbs ou une anecdote passée vont prendre un relief nouveau quand on connaît un peu l'origine de son comportement et des décisions qu'il va prendre par la suite. Et on ne se voile pas la face puisque l'époque est représentée avec ses clichés, notamment le sexisme, discret mais présent, dans la hiérarchie militaire encore très masculine ou bien aussi sur la gestion des carrières féminines qui commencent à émerger. Ce qui aujourd'hui donne matière quand même à réflexion et à contraste par rapport à l'époque que l'on vit. Ou pas d'ailleurs, ça dépend des corps de métier. Quelques repères quand même à garder en tête. La série NCIS Origins débute en 1991 à la base du camp de Pendleton, en Californie. Elle est narrée par le Gibbs âgé qu'on connaît, ce qui ne gâche rien, qui est toujours incarné par l'acteur historique Mark Harmon. Et elle fait clairement écho à la série originale, tout en ayant sa propre identité. Ce que je peux vous dire pour conclure, c'est que si vous avez aimé la série originale, que vous l'ayez regardée un petit peu de temps en temps, sur M6, par-ci, par-là, mais si vous avez aimé les enquêtes, les personnages, son ambiance autour de la Navy, alors NCIS Origins sera peut-être un vrai régal pour vous. On y retrouve les racines, les prémices, l'histoire derrière l'histoire. C'est comme ouvrir un coffre-fort à souvenirs de Gibbs, de l'agence et de tout ce qu'il y a avant. Pour moi, c'est un vrai coup de cœur qui mêle nostalgie, découverte, émotion et un petit vent de renouveau. On nous annonce 2 saisons de 24 épisodes chacune, donc comme un bon NCIS. En tout cas, personnellement, quand j'étais à Los Angeles en septembre dernier, j'avais aussi remarqué de grandes affiches pour un énième spin-off NCIS. Il s'agit de la série Tony et Ziva, deux autres personnages phares de la série. Je crois que la diffusion a déjà commencé aux US courant septembre. Autant vous dire que je ne vais pas la manquer non plus. Peut-être même que je vous en dirai bientôt un petit peu plus. Voilà.
En fait, c'est infini, mais on ne s'en lasse pas.
C'est ça.
Ben merci Aurore, tu nous as présenté NCIS Origins. Merci Amy qui nous a présenté Sirens et Alice in Borderland. Merci Nathalie qui nous a parlé des dossiers oubliés. Et merci Julie qui nous a vanté les mérites de American Horror Story et It Welcome to Derry. Et pour ma part, je vous ai présenté Mobland et Empathie. Il est temps de parler des actualités de la bibliothèque. Demain, samedi 22 novembre, à partir de 14h, il y aura un nouveau club Fab Lab, une séance de découverte. Venez explorer le monde fascinant de la fabrication numérique. Vous familiariser avec l'univers du Fab Lab, un espace dédié à la création, à l'innovation et à l'expérimentation. Samedi 6 décembre à 17h, un café philo, les petits socratiques. Pouvons-nous échapper à la tyrannie de nos émotions? Discussion et débat philosophique animés par Robert Verger. La prochaine séance de notre club lecture, l'apéroculture, aura lieu le vendredi 28 novembre à 18h à la bibliothèque Saint-Corneille. Et nous nous retrouvons le vendredi 19 décembre à 18h pour notre émission du rendez-vous culture des bibliothèques sur votre radio préférée, Graphite. Un très bon week-end!